Merci et bonne année à toutes et à tous.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute art plastique. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sarah Hilaire-Meyer, Ingrid Duquegade et Florian Guettet. À notre affiche Soulage au Louvre, Luca Giordano au Petit Palais, affiche cubaine au MAD, le Musée des Arts Décoratifs. Et puis il y aura un coup de cœur de Florian Guettet pour Laura Hainaut. Nous ouvrons cette dispute avec Soulage au Louvre, titre de l'exposition rétrospective consacrée au peintre français qui a fêté ses 100 ans il y a une semaine. Les commissaires en sont Pierre Encrevé, disparu le 13 février dernier, lui et Alfred Pacman. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Soulage en compagnie d'Éric de Chassé pour un entretien que nous avons exceptionnellement diffusé dans la dispute, voici quelques semaines, et en voici un extrait.
Je ne suis pas toujours rendu compte de ce que j'aimais dans ce qu'on appelle le noir. Enfin, je m'en suis rendu compte après. Mais c'était dans les années 70 où j'étais en train de peindre avec... J'avais une toile qui progressivement s'était couverte de noir. Et je continuais, mais j'étais pas heureux. Parce que ce qui se passait était trop loin de ce que j'espérais. Et je suis allé dormir pas très longtemps. Et après une ou deux heures, je suis allé voir ce que j'avais fait. Et j'ai découvert que au lieu de me désoler devant ce que j'étais en train de faire, je me suis rendu compte tout de suite, d'ailleurs, de l'importance de ça. Mais je me suis aperçu, en tout cas, que ce que je faisais, ce n'était pas avec du noir que je le faisais, mais c'était avec la lumière réfléchie par des états de surface d'une couleur noire. Et alors, c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que pas clairement, d'ailleurs. C'est maintenant que je m'en rends compte. Maintenant, ça fait quand même pas mal d'années. Je me suis rendu compte que je faisais une autre peinture. Dans la mesure où on regarde ce que je fais, c'est du noir. Mais si on est attentif à ce qu'on voit, on s'aperçoit qu'il y a des différences considérables. Et alors, maintenant, je me suis rendu compte que ma peinture n'était plus comme elle était sur une surface, ni donnant l'idée de la profondeur, que ma peinture se passait devant, et que celui qui regarde ma peinture est dans ma peinture. Et si celui qui regarde fait un pas de côté, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est aussi une chose importante. La peinture que je fais était riche, une foule de possibilités, dont une de celles apparaît au moment où on est. Donc, elle est multiple. Et ce qui se passe est devant elle, et je crois que maintenant, on commence à se rendre compte de la particularité de ce travail-là. Il y a quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qu'on appelle la peinture.
Voilà pour ces propos de Pierre Soulage, enregistrés il y a quelques mois maintenant, c'était au cours de l'été dernier. Mais on va parler de cette exposition Soulage au Louvre, et tout d'abord, Sarah Hilaire-Meyer va nous faire une... petite description de cette exposition qui, il faut d'abord le préciser, se tient dans le salon carré du Louvre.
Alors c'est une exposition de petit format puisqu'elle réunit dans les deux salles du salon carré une vingtaine d'œuvres. Mais cette expo permet néanmoins de parcourir l'ensemble du travail de Pierre Soulage, c'est-à-dire 8 décennies de travail, en commençant par les années 40 avec 3 œuvres au brou de noix, qui est une matière qui est utilisée pour normalement teindre le bois, qui est très brune et qu'il étale sur des feuilles de papier de manière à constituer des sortes de signes, de traces groupées qui se détachent comme des figures sur le fond blanc du papier. Et puis il y a également de ces mêmes années-là 2 œuvres sur verre où il étale cette fois-ci du goudron de manière à constituer donc des contrastes entre les noirs de cette matière et la transparence lumineuse du verre. Puis on passe aux œuvres de la fin des années 40 et des années 50 avec des toiles de très grand format qui sont rigoureusement structurées et charpentées par des gestes de superposition et de raclage de couleurs noires sur des couleurs bleues, rouges ou ocres. Puis arrivent les années 60-70 avec également des toiles de grande dimension où il répand de grandes nappes de couleurs noires qui laissent apparaître des trouées blanches en zones irrégulières. On passe ensuite dans la seconde salle où sont réunis quatre décennies de travail à travers neuf toiles, dont celle de 1979 qui marque un tournant dans la carrière de Pierre Soulages, puisque c'est avec elle qu'il invente l'outre noir, c'est-à-dire en fait un nouveau fonctionnement de sa peinture qui consiste non plus à produire de la lumière par des contrastes de couleurs sombres et claires, mais par des contrastes de textures, c'est-à-dire plus précisément par le reflet direct de la lumière sur les différentes textures de noir qui recouvrent entièrement la surface des toiles. Et donc les huit autres œuvres qui entourent cette toile, elles datent des années 80, 90, 2000 et 2019 pour les dernières, qui forment un triptyque. Certaines sont composées d'un seul panneau, d'autres de plusieurs panneaux, et elles explorent toute cette invention de l'outre noir à travers des combinaisons qui semblent infinies entre des surfaces qui peuvent être soit lisses, soit striées, soit mates, soit brillantes.
Voilà une description, en effet, de cette exposition resserrée dont nous allons parler. D'abord, un premier tour de table pour ce premier sentiment rapide sur l'exposition Soulages au Louvre, Ingrid Duquegad.
Alors, Pierre Soulages a toujours inventé une figure de l'artiste comme ça, hors sol, un être inspiré, un être métaphysique, qui se fige dans une posture de séminariste. Et alors, le corpus au Louvre, qui se concentre sur les dernières toiles, et qui, au final, ne rend pas vraiment compte des ruptures qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de sa pratique, pour moi, monumentalise encore plus le maître de l'outre-noir qui se retrouve vraiment figé dans une tour d'ivoire.
Là, c'était la vie synthétique. Hein. On attend le développement d'Ingrid tout à l'heure. Florian Guettet.
Je trouve que c'est une expo sans aucune prise de risque, qui est peut-être pas à la hauteur de l'hommage qu'on veut lui rendre.
Sarah Hellermeyer.
Moi, je trouve que c'est une expo de petit format, mais qui permet au contraire de bien voir les différentes périodes de Pierre Soulages et surtout d'entrer dans la poétique de l'accident qu'il développe.
Donc, pas d'accord du tout autour de cette table, ce qui commence bien. Ingrid Duquegad, pour développer cette première entrée en matière qui était déjà conséquente.
Alors c'est vrai que en fait Soulages, il a comme ça une manière de se couper totalement du dialogue avec ses contemporains et avec la société civile, puisque lui-même dans ses écrits va répéter que sa peinture est un champ mental, que tout va naître de l'accident dans un dialogue entre l'homme et la matière, où finalement c'est la matière qui prend le pas sur l'idée. Puisque le fameux tournant de 79 où il invente l'outre noir est en fait un accident. Il nous raconte comment c'est une découverte accidentelle qui va le mener à sa formule qu'il développera depuis, puisqu'il voit le résultat sur la toile, il n'en est pas content, il va faire une sieste, et après, par une espèce d'illumination, il rentre dans ce processus. Donc c'est vrai qu'en fait, on se rend compte à quel point Soulages a vraiment construit une trajectoire hors sol, puisque Soulages est quand même contemporain de mai 68, et à l'époque, il peignait dans son atelier de Saint-Germain à l'écart de tous les tourments du monde. Et au même moment, il va exposer à Matignon, il va avoir sa toile dans le bureau de Georges Pompidou.
C'est déjà un artiste certain âge en 68. Hein.
Effectivement,
ça ne m'a pas échappé, 50 ans quand même déjà à ce moment-là.
Mais c'est quand même avant la période qu'on connaît de lui, donc ça n'apportera finalement aucune rupture dans un processus qui est déjà bien en cours. Et au Louvre, le choix de se concentrer sur les œuvres les plus récentes, qui sont comme ça des polyptyques très sculpturaux qui sortent de l'espace, pour moi, ça le coupe vraiment de tout dialogue qu'il pourrait entreprendre avec une peinture classique dont on sait qu'il est proche, qu'il est très érudit. À côté, on a la bataille de San Romano, de Paolo Uccello, où en 2009, pour son 90e anniversaire, Soulages avait déjà exposé une toile à côté de cette peinture, pour justement expliciter l'idée qu'il se coupe de la référence à la peinture. Mais à l'époque, il le faisait en montrant que les stries verticales que lui-même amenait dans sa peinture et qu'on retrouvait chez Uccello étaient au final purement un hasard. Donc il expliquait plutôt les raisons de sa rupture par rapport à l'histoire, alors qu'ici on le retrouve dans une espèce de sarcophage totalement monumentalisé. Après, le geste est effectivement une célébration et non pas une exposition. Donc, c'est la consécration du siècle de Soulages, comme le rappellera Pierre Nora dans le catalogue. Donc, le but n'est peut-être pas tant d'historiser Soulages, mais de montrer la présence d'une peinture effectivement métaphysique et qui a une vraie résonance avec la sensation de chacun.
Pas tout à fait d'accord, Florian Guettet, ou pas du tout, je sais pas.
Ça dépend. En fait, non, je trouve que c'est une expo d'intronisation qui a quand même ce désavantage de se tenir dans le salon carré. Vraiment, ce choix, je sais pas ce qu'il dit, je sais pas vraiment ce qu'il vient justifier. Effectivement, il a tendance à isoler Soulages. Soulages, il s'isole tout seul de toute façon. Il est clairement autonome, il veut pas s'inscrire dans les mouvements, il rejette l'appellation École de Paris. Il est en dehors du débat entre expressionnisme abstrait et abstraction lyrique.
C'est l'art pariétal, hein, comme il l'a dit plusieurs fois dans l'entretien.
Exactement. Donc, bon, à la limite, ça respecte au moins cette forme d'individualisme assez poussé chez lui. Mais, d'une part, il y a ce travail, cette confrontation directe avec l'ornement du palais, vraiment avec ses plafonds extrêmement opulents, en dorure, en décor, très très lourds, qui me semblent pas très pertinents, parce que ça a tendance à diminuer véritablement les œuvres, même les œuvres verticales, sur lesquelles l'accent est plutôt mis dans cette exposition.
Qui sont les plus récentes.
D'autant qu'il n'y a pas de confrontation vraiment immédiate qui pourrait faire un jeu de tension, puisqu'entre le haut des 6 mètres et ce plafond, il y a encore 1,50 m, 2 mètres de séparation. Donc, moi, je trouve que ça, au lieu de magnifier ou de sublimer ou d'offrir un écrin à cette œuvre-là, ça a plutôt dans un sens à la parasiter, ça distrait et ça rompt avec une forme de neutralité qui est pourtant fondamentale chez Soulages. C'est un des points communs qu'il avait avec le nouveau roman. On sait d'ailleurs qu'il avait des affinités avec Nathalie Sarotte ou Claude Simon. Et puis, cette forme de recherche très objective, sans histoire, sans littéralité, qui aurait pu finalement tenir seul et qui n'avait vraiment pas besoin de l'ornementation du Louvre. Donc je trouve ce choix un petit peu étrange. Et puis effectivement, là où je rejoins par contre Ingrid, c'est pourquoi avoir évité la confrontation. Soulages disait lui-même que les maîtres du noir, pour lui, c'était Velázquez, c'était Goya. Alors c'est sûr que le Louvre est pas très bien doté en Velázquez. Il y a quelques Goya, c'est peut-être pas les plus probants, mais par contre il y a une collection aussi d'art néolithique qui aurait pu faire l'affaire. Donc là aussi, finalement, est-ce que cet isolement-là est justifié de bout en bout? J'en suis pas vraiment sûr. En revanche, là où je suis moins d'accord avec Ingrid, c'est que je pense pas qu'il y ait vraiment de transcendance chez Soulages. Je veux dire, on n'est pas dans une métaphysique comme dans la peinture suprématiste, par exemple, où véritablement il y avait une sorte de plasticisme comme ça, investi d'un pouvoir religieux de transcendance. Alors que finalement, chez Soulages, il y a quelque chose de beaucoup plus perceptif, quoi. On est sur quelque chose de, c'est un événement phénoménologique, c'est la perception pure, c'est pas forcément en rapport avec le divin. Et du coup, j'ai peur que cette forme de d'installation dans le salon carré, dans ce contexte-là, vient lui donner aussi une mauvaise lecture.
Vous voulez juste répondre là-dessus, Ingrid, avant qu'on entende
ça? Oui, alors, parce que moi, il y a une comparaison que j'aurais beaucoup aimé voir, c'est avec justement tous les fonds dorés qu'on retrouve dans la peinture byzantine. Parce que Soulages a beaucoup écrit, il a beaucoup théorisé, c'est un grand théoricien de l'histoire de l'art, et lui, justement, rappelait qu'un de ses découvertes plus tardives que l'art pariétal, c'était la Maesta de Cimabue, qui n'est pas loin de lui au Louvre, et où il voyait justement dans les fonds dorés, dans ces aplats dorés, un peu la matrice d'une peinture que lui-même va continuer sans vraiment savoir pourquoi, mais il retrouve la même transcendance justement dans les fonds dorés byzantins. Et je pense que ça aurait été assez intéressant d'établir cette confrontation-là pour le sortir seulement d'une couleur, du noir, puisqu'il y avait beaucoup d'expos sur Soulages et le noir, sur la peinture et le noir. Et moi, j'aurais été assez intéressante qu'on pousse justement cette relation au divin qui me semble quand même assez présente chez lui.
Alors, divin, je reviendrai là sur ce terme. Mais Sarah Lermeyer, qu'on n'a pas encore entendu sur l'expo elle-même, sur son avis personnel.
Alors, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans la mesure où je trouve pas que, déjà, les dorures qui sont tout en haut du plafond, qui est extrêmement haut, parasitent la perception des œuvres. Par ailleurs, le dialogue qui pourrait être fait avec des périodes anciennes, quelque part, il existe, du fait même de la déambulation dans le Louvre. Là, on est effectivement en visite presse, donc on va directement au salon carré. Après, il se trouve que dans l'enfilade, il y a des peintures pré-renaissantes où on trouve justement également des dorures. Donc, j'ai pas ce sentiment d'un mauvais accrochage.
C'est pas un lieu où on entre en sort de la rue directement. Vous avez raison. Oui. Il y a le passage dans le Louvre.
Exactement.
De toute façon.
Et ça permet pour des personnes qui ne souhaiteraient, enfin, qui viennent a priori pour des œuvres qui ne sont pas celles de Soulages, eh bien, de le découvrir au passage. Donc, voilà, de ce point de vue-là, moi, je suis pas mes collègues. Après, je préfère revenir directement plutôt sur le travail, parce que je trouve que ce que permet de voir cette exposition, c'est, comme je disais, de voir comment, ce que développe Soulages, c'est une poétique finalement de l'accident. Je reprends ici une thèse qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un peintre et philosophe qui s'appelle Henri Darras, qui a écrit un livre qui porte ce titre-là. Et donc cette poétique de l'accident, elle intervient à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans le fait qu'il intègre un phénomène, celui du reflet, qui est normalement banni de la peinture, du moins dans la peinture classique, puisque les reflets de lumière sont des interférences qui sont accidentelles, parasites qu'il s'agit généralement d'évacuer, en fait, d'éliminer. Ensuite, la dimension accidentelle, elle intervient dans le fait que les réfléchissements de lumière, ils changent constamment en fonction de l'éclairage, qui peut être naturel ou artificiel, mais aussi en fonction des déplacements et des déambulations du spectateur. Et puis, cette poétique de l'accident, c'est peut-être là où c'est le plus important, elle intervient aussi dans le geste même de Pierre Soulages, puisque d'un côté, il y a ce qui est voulu, c'est-à-dire l'effet global, de l'apparence de lisse ou de strié, de mat ou de brillant des surfaces peintes. Et puis de l'autre, il y a tout ce qui vient avec cet effet global et qui peut pas être voulu ou prémédité individuellement, c'est-à-dire les micro-accidents de surface qui consistent en fait dans l'irrégularité par exemple des sillons, dans des agrégats, des empattements de matière ou des micro-crevasses. Et en fait, c'est toutes ces imperfections ou ces accidents de surface qui animent véritablement l'étoile et leur donnent toute leur diversité au-delà de leur structure d'ensemble et de leur rythme général. Et donc ce qu'on voit finalement dans cette exposition qui est petite, c'est que Pierre Soulages, ce qu'il crée, c'est les conditions d'intervention du hasard au sein d'un protocole qui est très délimité, et ce sont toutes ces interventions-là qui en fait permettent à ces toiles d'être toujours infiniment variables et différentes les unes des autres.
Oui, c'est vrai que c'est une chose sur laquelle Pierre Soulages a beaucoup insisté dans l'entretien que j'ai pu réaliser avec lui, sur le fait que ce qui l'intéresse, c'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est il ne peint pas pour refaire la même chose, mais il peint pour être toujours surpris, et ça va aussi l'expérience qu'il a eue avec les vitraux pour la basse-salle de Conques a aussi été très importante, c'est-à-dire qu'il a effectivement, il s'est passé des choses qu'il n'attendait pas, et c'est là que lui, ça l'intéresse, et c'est ce qu'il recherche. Mais je vais peut-être revenir sur la question de la transcendance et du divin, parce que moi, il me semble, et là aussi c'est quelque chose dont il parle très volontiers, Pierre Soulages, et son rapport aux sciences, c'est-à-dire aussi bien aux sciences du cosmos, ou l'infiniment grand, l'infini petit, c'est plutôt dans une histoire à la fois de l'humanité, non seulement avec l'art pariétal, mais avec une histoire très longue du temps. Je pense que Pierre Soulages, il a un rapport plus cosmogonique, oui, et scientifique aussi, parce qu'il s'intéresse à ce qu'on voit dans les télescopes, mais aussi les nanoparticules. Enfin, il est quand même très inscrit. Moi, j'entends pas le divin chez lui, je ne le vois pas non plus. Je vois plutôt une recherche fondamentalement humaine, au contraire, Ingrid Le Kegan.
Bah alors oui, en effet. Mais il y a un rapport au sacré pour moi qui est très présent. Et toutes les références à la peinture byzantine l'ancrent encore là-dedans. Je pense que c'est aussi le rapport à la révélation. La révélation qui en fait comme ça un élu, où les choses viennent à lui sans qu'il se pose la question.
Et ça, c'est votre lecture, ça, j'ai l'impression.
Ouais. Alors oui, en effet, mais... Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'était de le comparer à la figure du peintre qui se trouve également chez Hans Hartung, qui est exposé au même moment au Musée d'Art Moderne. Puisque Hans Hartung a 15 ans de plus que lui, mais ils émergent vraiment au même moment. Ils vont être les deux représentants de la peinture française lorsqu'ils exposent à New York au tout début des années 50. Et on voit chez Hartung une grande conscience justement des médias, de la reproduction technique et d'une œuvre comme ça qui s'ancre dans son rapport également aux techniques de représentation actuelles. Alors que, au contraire, Soulages se coupe de tout ça et va être dans une sorte de révélation. Où il invente également une mythologie du peintre, où c'est l'homme élu, les révélations viennent à lui et ne viennent pas aux autres. Et donc il y a comme ça une figure de l'artiste romantique qui pour moi est fondée sur une transcendance. Après c'est une transcendance qui a effectivement les deux pieds dans la terre, puisque dans la mythologie justement qu'il invente, c'est aussi le lien à ses racines, c'est le lien à son père qui fabriquait des calèches de chevaux. Et c'est comment on construit au final cet échafaudage qui va permettre à l'artiste de toucher le ciel et de toucher l'outre-présence, puisqu'il va beaucoup mettre en scène également sa pratique d'atelier où il construit comme ça des grands échafaudages en bois qui vont lui permettre d'aller toujours plus vers le monumental.
Sarah, la meilleure voulait intervenir.
Oui, disons que je pense pas non plus qu'il y ait une dimension transcendantale chez Pierre Soulages. Je pense qu'au contraire, il y a quelque chose de très immanent, de très matériel. Ça n'exclut pas un rapport au monde, puisqu'il dit lui-même en fait que donc l'outre noir et ses effets ne sont pas des effets strictement optiques. Ils incarnent un rapport au monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait l'expérience de continuelle variation de lumière, pour lui, ce dont on fait l'expérience, c'est l'expérience du monde comme un ensemble qui serait constitué d'éléments qui sont toujours différents les uns des autres et surtout toujours différents d'eux-mêmes sous les les apparences du même. Et ça, c'est une forme d'ontologie, mais c'est une ontologie qui n'est pas idéaliste. Au contraire, c'est une ontologie qui est immanente et qui considère qu'il n'y a que des différences et au sein de la répétition et non pas du même sous la répétition.
Florian Gaité, pour conclure cette séquence, Pierre Soulages au Louvre.
Ouais, on pourrait même hasarder l'hypothèse d'une peinture quantique. Je crois que c'est effectivement son lien à l'astrophysique, au trou noir, à la matière noire. Il y a presque quelque chose de l'ordre de la révélation, mais effectivement pas du tout de l'ordre du religieux, mais aussi comment on arrive à voir quand on fait écran à la vision, puisque c'est ça aussi son noir. C'est aussi ces matières noires qui sont là, qu'on ne peut voir que par résonance, qu'on ne peut pas affronter directement. Et finalement, ces peintures sont souvent composées sur ce principe-là. Ce sont des sortes d'écrans. D'écran aveugle, des béances, on trouve beaucoup de griffures, de balafres, des choses comme ça, à l'intérieur desquelles vient de se creuser l'image. Et puis, on a cette lumière qui naît d'une non-couleur, quoi. Et on le voit vraiment sur les trois derniers, où j'étais très étonné de voir vraiment un bleu assez électrique, métallique, en tout cas, arriver sur le haut des peintures, qui m'a, pour le coup, vraiment surpris.
Soulages au Louvre, c'est jusqu'au 9 mars au Salon Carré. Il y a un catalogue coédité par le Musée du Louvre. Et Gallimard, on a encore un riche programme. Luca Giordano, les affiches cubaines et un coup de cœur pour Laura Eno.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Luca Giordano, le triomphe de la peinture napolitaine, c'est au Petit Palais à Paris. Les commissaires en sont Christophe Leribaud et Sylvain Bellinger. Scénographie signée Véronique Dolfus. C'est une exposition réalisée collaboration étroite avec le musée de Capodimonte de Naples. Une exposition qui permet de découvrir ou de redécouvrir, en tout cas dans son ampleur, l'œuvre de Luca Giordano, né en 1634 à Naples, mort dans la même ville en 1705, mais entre-temps, donc il y a 70 années bien rempli, ou même s'il est toujours revenu à Naples, il est aussi passé par Venise pour sa formation, il est retourné plusieurs fois, Madrid, où il réside une dizaine d'années, et donc toujours ce retour à Naples, Luca fait vite, hein, fa presto, comme c'était son surnom. Alors d'abord parce qu'il a commencé très tôt, dès 8 ans il est quand même repéré, et puis là, et produit énormément d'œuvres. Alors comme les chiffres varient, je ne me risquerai pas à en donner un seul, de 1000 à 3000, on ne sait pas. On
verra. À 5000.
À 5000, oui, il y a des estimations à 5000 aussi, mais il y a un travail d'atelier dont on parlera sans doute. C'est la musique qui précède l'entrée en scène de Florian Gaité, toujours. Ce sera son jingle, puisque c'est Florian qui nous décrit succinctement, parce que cette exposition est foisonnante, on va en parler, le parcours de l'exposition, Florian.
Bien, c'est un parcours chronothématique, 90 tableaux sont présentés, monumentaux plutôt, des dessins et des fresques qui sont reproduites d'une certaine manière, nous y reviendrons. Donc l'expo est introduite par les œuvres de jeunesse, hein, c'est assez classique, des autoportraits, des pastiches, parmi lesquels une Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste du Prado, qui est attribué d'abord à Raphaël avant qu'on découvre que c'est Luca Giordano. Mais on trouve aussi un Christ à la Durer, un enlèvement des Janires très caravagesque, soit tout ce avec quoi il va prendre ensuite ses distances, mais qui constitue en fait son héritage.
C'est une bonne base en même temps.
Exactement. dès la deuxième salle, alors on est confronté à un des tours de force de l'exposition, c'est-à-dire de délocaliser des grands retables, alors plutôt des commandes des églises napolitaines, qui sont donc là arrachées à leur milieu d'origine. Ce sont des compositions très lumineuses, très imposantes, très spectaculaires, très saturées évidemment, très expressives, tourbillonnantes. Elles allient en gros la majesté des chérubins à des plaies purulentes en bas de tableau.
C'est ça.
Et puis alors, cette théâtralité est accentuée par la présence centrale d'une sculpture de Lorenzo Vaccaro, Saint Michel Archange. La salle suivante est importante parce qu'elle permet de rendre compte du style de Giordano en regard de ses maîtres et des gens qu'il admirait. D'abord Giuseppe de Ribera qui est son maître, mais aussi Pierre de Crotone avec une comparaison de deux cristaux à colonne, et puis le napolitain Mattia Preti qu'il aime beaucoup, où on voit là les mêmes thèmes, un même ténébrisme, mais des contrastes beaucoup plus appuyés, des couleurs beaucoup plus chaudes, plus lumineuses, plus dramatiques aussi chez Giordano. Une comparaison qui va se poursuivre avec la présentation de trois Saint-Sébastien de Ribera, Preti et Giordano, mais on ne précise pas lesquels puisqu'il n'y a pas de cartel. On découvre ensuite deux focus, l'un sur les philosophes et un autre sur les dessins, qui sont clairement de moins bonne facture que les tableaux. Et puis ensuite on suit cette évolution de son style à partir du moment où il va s'émanciper du naturalisme caravagesque pour intégrer les apports du baroque, d'abord au niveau dans la scène locale napolitaine, et puis ensuite d'une façon plus personnelle et plus générale dans la reprise de thèmes mythologiques avec des compositions qui sont beaucoup plus marqués par la sensualité de figures féminines, des Vénus, des Lucrèces, des Perséphones ou des Galatées, qui sont étendues avec la chair voluptueuse. Et puis on finit avec la dernière période de sa production, celle qui est réalisée à la cour du roi d'Espagne Charles II, pour lequel il va réaliser des grandes fresques, notamment au palais de l'Escurial, mais aussi à la cathédrale de Tolède. Et pour se rendre compte de ces fresques qu'on n'a pas pu, évidemment, délocaliser, eh bien on les projette sur les murs et le plafond d'une pièce qui est entièrement dédiée à ça. Alors ça peut paraître un peu gadget, mais en même temps c'est intéressant parce que ça permet des gros plans, il y a une observation assez dynamique de ces fresques qui sont fourmillantes hein, vraiment, qui allient quelque part le miniaturisme à l'opulence monumentale, donc je trouvais que c'était pas si dénué d'intérêt. Le style, on le voit là, est directement plus emporté, plus fougueux, peut-être moins contrôlé. C'est notamment, on le voit dans une des dernières salles, un Samson et le Lion absolument sublime, avec une vitesse d'exécution dont vous avez déjà parlé, mais qui là et saute aux yeux, une fluidité très qui porte en fait son talent à son apogée.
Ben voilà pour cette belle visite qu'on va maintenant commenter dans un premier temps synthétiquement et ensuite vous développerez. Premier sentiment sur cette exposition, Sarah Hellermeyer.
Une peinture pleine de faste et de volupté.
Une grille de Kegan.
C'est la saga dramatique de l'hiver.
Et Florian Guettet.
Un génie baroque, incontestablement, et parfois, je le concède, un peu étouffe-chrétien.
Sarah Hellermeyer.
Oui, première... En fait, ce qui est surprenant, je trouve, avec Luca Giordano, c'est qu'on pourrait dire, a priori, qu'il s'agit d'un artiste qui est sans style propre, puisqu'il a d'ailleurs commencé, comme on le voit dans les premières salles, par faire des pastiches, des peintures à la manière d'autres peintres, ce qui se fait vraiment sentir dans son œuvre, puisqu'elle est tantôt flamboyante, baroque, tantôt ténébriste, et puis il fait par ailleurs la synthèse entre tous ces courants. Donc, mais justement, ce qui s'affirme au fil de l'exposition, c'est que son style propre, il consiste justement à embrasser des tendances et des courants dont il n'est pas précurseur, ce qui donne lieu à une forme de baroque, aux accents, disons, ténébristes et vénitiens. C'est-à-dire qu'il emprunte au baroque, par exemple, des principes de composition avec la multiplication des angles et des points de vue, qui implique d'ailleurs souvent le spectateur dans l'étoile. Il y a aussi de très fortes impressions de mouvements qui sont données par les gestes des personnages et aussi par leur drapé. Les personnages, ils sont souvent très théâtraux et expressifs, ce qui est caractéristique du baroque. Et puis, ce qu'il emprunte au Caravage en passant par le prisme de Ribera, qui est son maître putatif, c'est-à-dire hypothétique, on n'en est pas sûr. Ce sont évidemment de forts contrastes de lumière avec des corps qui sont découpés par l'éclair obscur et qui semblent surgir de l'obscurité. Et puis ce qu'il emprunte à la peinture vénitienne, c'est son coloris avec des couleurs qui sont chaudes, lumineuses, dorées, rouges, orangées et bleues qui paraissent souvent légèrement poudreuses. Et cette synthèse-là, on la voit, je trouve, très bien d'entrée de jeu dans la première salle avec l'enlèvement de Déjanire qui réalise au début des années 1660. Et qui montre le dieu Pluton en train d'enlever, comme son titre l'indique, une certaine Déjanire, qui est un personnage de la mythologie grecque. Et donc ces figures, elles émergent au premier plan de l'obscurité. Elles sont peintes dans des couleurs qui illuminent les carnations. Et Luca Giordano a choisi là de montrer le dos de Pluton, qui est extrêmement puissant et noueux. Et l'ensemble du corps semble être pris dans des contorsions dynamiques, comme celui de Déjanire, qui semble attrapé au vol en pleine course. Donc je trouve que le ton est déjà donné dès cette première salle.
La saga Ingrid Le Quegan.
Alors c'est vrai qu'on connaît mal Luca Giordano.
Vous le connaissiez pourtant, enfin moi je le connaissais pas.
Non, je le connaissais pas. Je l'ai vu sans savoir que c'était lui au Capodimonte.
Ah oui, mais ça, on peut, quand bah, on va à Naples, effectivement, dans les églises, on le voit.
Ouais. Ça, il est tombé en désuétude.
Il était très célèbre, visiblement.
Puisque dans l'histoire, on lui a reproché justement son syncrétisme, qui pourtant sera la base même du baroque. On lui a reproché également d'être un peintre trop sage, puisqu'il connaît le succès très jeune, qui se poursuivra sans interruption jusqu'à la fin de sa vie. Et l'histoire lui a préféré des singularités stellaires comme Caravage.
Ouais.
Et alors là, j'ai l'impression qu'on est vraiment à un tournant aussi dans la manière dont on conçoit l'histoire de l'art, puisqu'on s'intéresse à la circulation des références à l'intérieur du baroque, qui était vraiment un mouvement européen. Et donc, le fait de réhabiliter ce syncrétisme, c'est aussi s'intéresser à travers la figure de Luca Giordano à la manière dont, au final, les sources circulaient, puisque le père de Luca Giordano, qui était artiste, va lui faire reproduire des gravures. Donc on a aussi par Luca Giordano une idée comme ça d'une communication entre les artistes qui finalement est justement à l'inverse de ce qu'on disait de chez Soulages, puisque là on a vraiment un artiste qui est au contact de ses contemporains et qui voyage et qui intègre toutes ses références. C'est quelque chose qui ressort très bien dans l'exposition, puisque évidemment une salle adresse cette fièvre du pastiche qui fera qu'il sera d'abord connu justement comme un pasticheur de Caravage, de Rubens, d'un baroque qui parcourt l'Europe. Et en fait, toutes les salles vont mettre en avant justement les emprunts qu'il va faire aux uns et aux autres et montrer un peu comment sa touche s'affirme par-delà les compositions et par-delà les manières et les traitements, par une touche beaucoup plus virevoltante qui annonce déjà le rococo de la fin du baroque.
Florian Guettet.
Oui, je parlais tout à l'heure du côté un peu saturé, hein, que tiens,
oui.
Dit, je sais.
Oui, vous le redites,
du mais coup. Mais Luca Giordano, c'est vraiment un des instruments de la contre-réforme aussi. C'est-à-dire ce moment où la foi doit s'affirmer dans toute sa splendeur, dans toute sa théâtralité, un peu au chausse-pied aussi. Mais on le fait avec, on multiplie les saints nouveaux, les saints, les patrons tutélaires, etc. Donc, Luca Giordano, c'est vraiment cette complexité mise au service aussi d'une sorte de propagande religieuse, quoi, en tout cas de reformer une esthétique.
Que ça fait des commandes, hein.
Oui,
il n'est pas contre.
Oui, oui, je pense que qu'il était complice de tout ça. Mais ça tombe quand même dans un mauvais moment, parce que Naples à ce moment-là. En 1656, donc il revient de Rome, je crois qu'il est passé en 1653, donc 3 ans après il revient, et c'est la grande peste en fait à Naples. Donc il a d'un côté l'opulence, la richesse, la foi divine, les chérubins, les madones, les ascensions, etc. Pour lequel même il va même remodeler hein, l'image de la Vierge, on va la voir avec un baldaquin, c'est la première fois qu'on verra un baldaquin dans une procession mariale dans un tableau, et ce sera Giordano. Mais en même temps il y a aussi cette actualité autour de lui, de la misère, de la mort, de la souffrance, de la fragilité de la vie, donc c'est très difficile d'un côté de valoriser l'œuvre divine et de l'autre de voir qu'elle peut échouer. Donc il y a vraiment cet ordre de tension constante chez lui, ou même quand il présente parfois des dieux en majesté, enfin des Marie principalement, hein, mais quand elle est dans une des dernières salles au pied de la croix. Elle a un visage gris, quasiment squelettique, avec des mains blanches, mais à faire peur, quoi. Je dirais, elle a quelque chose de très très spectral. Donc, on est dans une sorte d'hésitation parfois entre comment magnifier l'esthétique religieuse, le sacré, et de l'autre côté la rappeler aussi à son côté terrestre et beaucoup plus déchu, en fait. Et cette alliance entre l'opulence et la déchéance, je la trouve très constitutive, en fait, de son style.
Ingrid, de Kegan.
On a parlé de la peste, on a parlé de l'opulence. Pour moi, la partie la plus réussie de son œuvre, c'est la salle consacrée aux philosophes, qui sont d'ailleurs des tableaux qui sont conservés au Louvre, devant lesquels on passe assez vite, ou que moi, j'avais en tout cas jamais remarqué. Et c'est là qu'on voit vraiment sa manière éclater, puisqu'il représente des philosophes stoïques ou cyniques, puisque au moment de la contre-réforme, on est à la fois dans une condamnation des apparences, mais dans un style qui justement les magnifie. Donc le fait de représenter ces philosophes, c'est aussi autoriser cette touche virevoltante et ce plaisir à peindre des matières dans des sujets qui, eux, sont autorisés. Et on voit justement dans la manière dont il va représenter ces philosophes, qui souvent ne sont pas identifiés. On a Ptolémée, mais sinon on a des philosophes aux lunettes ou des philosophes traçant des figures géométriques, que Giordano va représenter de manière très simple, comme des paysans, comme des personnes ordinaires. Et c'est, pour moi, c'est là où on voit vraiment sa touche prendre plaisir à dessiner des matières, à dessiner des visages. Et on lui retrouve un naturalisme proche de Caravage, mais par un style au final très joyeux et qui montre un peu toutes les tensions de cette époque où on est dans une opulence, un faste et un plaisir qui s'exprime aussi dans les sujets profanes dont on a parlé, les Vénus, mais voilà, qui est toujours cadré par des sujets comme ça qui nous rappellent que les apparences sont transitoires, qu'il faut repasser à la géométrie et qu'il faut... il faut en revenir aux grandes structures qui ordonnent le monde et face auxquelles les hommes finalement s'amusent mais sont assez démunis.
Sarah Nermeyer, quelques mots encore sur Luca Giordano.
Oui, parce que ce qui revient beaucoup dans ce que disent mes collègues, c'est l'action de la touche, et j'aimerais bien revenir là-dessus, parce qu'effectivement, ce qui est frappant et ce qui séduit, je trouve d'emblée dans cette exposition, quand on regarde l'étoile de Giordano, c'est ce qu'on voit, c'est que son style, en fait, il tient moins, justement, dans des principes de composition, dans les clairs-obscurs ou dans le coloris, qu'il emprunte toujours d'une certaine manière à d'autres artistes ou à d'autres courants, et dont il fait la synthèse. Son style, il tient vraiment à, on pourrait dire, à sa manière, et la manière qui pourrait être considérée ici comme une sous-catégorie du style, et qui, comme l'étymologie du mot l'indique, est étroitement liée à la main, c'est-à-dire en fait au geste et à la touche, et surtout ça, la manière renvoie peut-être à quelque chose de plus personnel finalement que le style, qui renvoie à des caractéristiques qui peuvent s'appliquer à des courants, à un groupe, à une époque, comme on dit, par exemple le style baroque, le style classique. Mmh. Et donc sa manière, comme le disait son pseudonyme Luca Fapresto, elle tient à une très grande virtuosité et rapidité d'exécution, avec des gestes et des coups de pinceau qui semblent très libres, très fluides, et qui sont souvent visible quand on regarde en tout cas de près, ça on a envie d'aller près d'étoiles, de faire des allers-retours, et ça donne un rendu qui est non pas photographique mais qui est au contraire légèrement estompé et presque de l'ordre de l'esquisse, avec et en même temps ce rendu là il est très précis dans la description des anatomies, des expressions et des mouvements, et ce sont en fait toutes ces qualités, je dirais, finalement très matérielles et plus tactiles qu'optiques, qui je trouve donnent le véritable plaisir pictural tout au long de l'exposition, et finalement et ça marque un véritable de fabrique. Alors je préparais d'un tableau qui illustre ça, mais je vais peut-être m'arrêter là.
Oui, parce que l'heure tourne et qu'on a encore un programme assez chargé, mais elle est riche, on l'a dit, cette exposition Luca Giordano, surtout pour un artiste qu'on connaissait pas ou qu'on ne savait pas qu'on connaissait, on l'avait peut-être aperçu parfois, ses toiles, ses œuvres, et si on était à Naples, on a plus de chances de le voir, mais Naples vient à nous, et en tout cas vient au Petit Palais avec cette exposition sur Luca Giordano qu'on peut découvrir jusqu'au 23 février. Il y a un catalogue qui accompagne l'exposition paru chez Paris Musée. Et c'est l'heure du coup de cœur. Le coup de cœur ce soir de Franck était pour Laura Hainaut. Alors d'une façon générale, mais quand même pour une occasion particulière, Florian.
Oui, une occasion particulière qui est qu'elle vient de remporter le prix SAM pour l'art contemporain. Alors je sais que depuis le dernier Turner Prize, dans lequel les quatre finalistes avaient demandé à se partager le gain sans qu'aucun gagnant ne soit désigné, on engage en tout cas une réflexion sur la légitimité de ces prix. Mmh. Mais il n'empêche que il donne parfois l'occasion de faire un focus sur un artiste et de lui donner aussi les moyens de ses ambitions, et c'est le cas là pour Laura Hainaut, qui vient donc de recevoir ce prix et une dotation de 20 000 euros pour pouvoir poursuivre son projet de film entre les Comores et Mayotte, un prix qui brièvement récompense les projets qui mettent en lien des artistes européens avec des populations des pays émergents. Alors Laura Hainaut, elle est photographe et vidéaste. Elle suit en gros sur du long terme, sur plusieurs années, des communautés, des groupes qu'elle rencontre, avec lesquels elle partage la vie. Ce sont des individus en situation de clandestinité, de migration ou d'exil. Et ce qui moi retient mon attention depuis des années, puisque c'est un artiste que je suis depuis des années, c'est son art de la distance et de la mise à distance. De la distance, parce que je trouve qu'elle collabore très intelligemment avec les participants ou les personnages, mais qui sont réels, hein, de ces films et de ces séries de photographies. sans jamais oublier où est sa place d'artiste. Elle n'est pas crédule, elle est assez juste dans sa façon d'engager le rapport avec ces territoires-là. Elle prend des risques, elle s'expose elle-même et elle prend le temps aussi de construire une relation. Et puis de la mise à distance parce que bien qu'elle négocie avec l'objectivité documentaire, sa photographie ou son approche est toujours balancée par des gestes de poétisation qui empruntent eux leur code au cinéma, à la peinture d'histoire, à la peinture romantique, au point de pouvoir parler de tableaux vivants. Alors c'est un travail très fin sur cette imbrication du réel dans la fiction, dans des expériences limites, dans des situations limites, le lien aussi ou l'enchevêtrement du fantasme dans l'histoire, qui passe donc par le poétique pour aborder le politique. Et c'est, je crois, un travail aussi solide que nécessaire aujourd'hui. Alors on l'a pu la voir dans Désolé récemment, qui était exposition placée sous le commissariat de Mohamed Bourouissa. On a pu la voir aussi il y a très peu de temps au Nouvel Institut pour la photographie à Lille, qui exposait son projet Radical Devotion, où elle avait suivi une communauté de marginaux dans une ville du désert californien qui s'appelle Slab City, où on trouve des anciens junkies et des évangélistes. Et avec cette dotation, elle partira à nouveau dans l'océan Indien pour tourner son nouveau film qui s'appelle Nzoani, puisque depuis des années, en fait, que ce soit de la Réunion aux Comores, en passant par Calais, puis en revenant à Mayotte, Laura Eno suit des jeunes souvent sans papier, candidat à l'exil, fugitif, notamment alors cet enfant, patron, qui est un passeur initié à seulement à l'âge de 10 ans, ou Joe, qui est un loup solitaire, qui est sorti d'un gang, et puis les Bushman, qui est ce gang qu'elle suit depuis plusieurs années, qui habite à la Isère, la forêt et la plage, une micro-communauté dans des conditions évidemment difficiles, qui illustre cette violence politique, sociale, économique, des situations de migration contemporaines. Alors si le travail ne sera pas présenté avant 2021 au Palais de Tokyo, je me réjouis en tout cas que 2020 soit l'année de sa réalisation dans tous les sens du terme.
Bon, coup de cœur et félicitations à Laura Eno.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Dernière exposition à notre affiche, affiche cubaine Révolution et Cinéma au MAD, le Musée des Arts Décoratifs, commissariat assuré par Amélie Gasteau. C'est une façon originale de commémorer le 60e anniversaire de la Révolution cubaine avec cette exposition qui expose du coup enfin les 300 affiches qui étaient le fruit d'une donation au musée en 79. Donc c'était bien qu'elle sorte des réserves. Une exposition dont le titre est assez explicite, qui ne nécessite guère plus d'explications, mais qui va donner lieu à de nombreux commentaires. Mais pour nous mettre dans l'ambiance, on va écouter un extrait de Crónica de la Victoria de Fernando Pérez et Jesús Díaz, dont l'affiche qui est signée Nico est présentée dans l'exposition.
Y si había de tener lugar una verdadera y definitiva revolución en nuestra patria, tenía que ser bajo las banderas del marxismo-leninismo.
¿Qué sabrá mi niño de dónde volas? Que cogían camino al coger vereda. ¿Qué sabrá mi niño de doce horas? Que no se rompieron en el peñasco. ¿Qué sabrá mi niño de doce horas? Que volaron.
Cette aire de flûte que l'on va suivre Ingrid Lukegaard qui va nous faire un rapide tour de l'exposition avant qu'on en parle.
Alors nous sommes en 1959 et Fidel Castro vient d'arriver au pouvoir.
Moi qui croyais qu'on était en 2020 maintenant, ben non, c'est raté.
En ce qui concerne le sujet qui va nous intéresser, c'est-à-dire les affiches, la pratique va changer radicalement. Puisque il arrive au pouvoir alors que la publicité est inspirée du modèle américain, vante la consommation de produits d'importation américains. Donc Fidel Castro, une des premières choses qu'il va faire en arrivant au pouvoir, c'est de révolutionner cet inconscient collectif visuel qui se forme par l'affiche. Et son ministre de la Culture, Che Guevara, va interdire la publicité commerciale. Donc l'exposition d'affiches cubaines au Musée d'Art et d'Industrie va montrer un corpus quasiment inconnu qu'on découvre depuis 10 ans, des affiches pendant 60 et 70, centré sur une affiche qui va non plus vanter la consommation, mais servir la propagande. Et la grande différence avec les affiches du réalisme socialiste de la même période qu'on connaît bien, c'est que Fidel Castro va laisser une liberté totale d'expression sur la forme à ses artistes.
Et qui ne vont pas se priver pour l'utiliser. Premier tour de table sur ces affiches cubaines, Florian, qui était la vie synthétique.
Que la révolution est douce et joyeuse.
Et colorée. Sarah Lermaillard.
Une très grande liberté et efficacité formelle.
Et Ingrid de Kagan.
Un syncrétisme réjouissant.
Alors, Florian Guettet, pour développer un peu ce premier point de vue.
C'est une exposition qui m'a permis de renouveler ce que je pensais connaître du graphisme communiste, en fait principalement soviétique, donc forcément d'inspiration plutôt constructiviste, dans une déclinaison latine, c'est-à-dire qui est marquée par ce tempérament du continent sud-américain, donc moins austère forcément, plus coloré. Et d'emblée on trouve les icônes de la révolution, donc Fidel Castro, Che Guevara, dans des formes pop, clairement kitsch. Par exemple, le Che auréolé d'un arc-en-ciel, célébré finalement comme un quasi-super-héros. Ce renouvellement passe aussi par une autre histoire de l'auto-référencement, c'est-à-dire que cet art ne s'est pas construit tout seul. Il se construit avec des influences, parfois légitimes et entendues, et puis parfois beaucoup plus paradoxales. Par exemple, il y a forcément un syncrétisme lié au surréalisme, à l'art cinétique qu'on comprend historiquement, on va dire. Il y a des liens avec le cinéma, on va dire un peu plus révolutionnaire, néo-réaliste italien, nouvelle vague en France. Mais il y a aussi une vraie ouverture sur l'art américain. Ça, c'est plus étonnant. Le pop art, le psychédélisme, le minimalisme sont extrêmement présents. Ça donne une forme de d'art complètement libéré, décomplexé, alors certes populaire, mais qui hésite vraiment pas à mixer toutes sortes de références et à les niveler. Depuis la référence à la bande dessinée, alors qui est complètement perchée dans des dessins psychédéliques de Félix René Medeiros Passos, jusqu'à l'emprunt à des formes de logos d'entreprise ou de sérigraphie très warholienne chez, par exemple, Alfredo Rosgarn. Donc c'est juste une impression très foisonnante, d'esthétique difficile à saisir, mais qui, par contre, nous parle immédiatement.
Sarah Hélermeyer.
Oui, même chose, c'est vrai qu'on pense connaître les affiches communistes. En fait, on découvre là un vocabulaire complètement, pour moi en tout cas inédit, qui montre une diversité, une liberté assez incroyable, puisque en fait, effectivement, comme le disait Florian, les affiches vont pouvoir aussi bien dessiner, reprendre des photographies, jouer sur des contrastes, des solarisations, emprunter à toutes sortes de vocabulaires, comme disait Florian aussi, qui peuvent paraître paradoxaux, puisque occidentaux, comme par exemple l'op art, le psychédélisme, le cinétisme. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que, par exemple, l'interdiction des normes et des codes du star system, c'est-à-dire l'interdiction de montrer des photos en couleur des acteurs et des actrices, elle offre en fait une très grande liberté d'interprétation aux affichistes, comme on le voit par exemple avec l'artiste qui s'appelle Eduardo Minos Bach, auquel est consacrée d'ailleurs, il me semble, une salle, voire peut-être deux dans l'exposition, et qui a dessiné de très nombreuses affiches de cinéma, qui jouent sur des aplats de couleurs, comme la plupart d'ailleurs de ces affichistes, parce qu'ils sont aussi soumis à des contraintes
techniques.
Il y a de nombreuses pénuries en fait matérielles, donc il a ces affiches d'Eduardo Minos Bach sont aussi foisonnantes en traits. Et par exemple, pour l'affiche des Trois Mousquetaires, il choisit de représenter un gros bonhomme qui a le profil d'un mousquetaire à six jambes. Et puis ce qui est étonnant aussi, je dois dire, c'est de voir, en ce qui concerne justement les affiches de cinéma, la diversité des films en fait qui sont présentés dans les salles cubaines. Il y a pas, en fait, on pourrait s'attendre à une forme de censure extrême. Pas du tout. Il y a aussi bien les classiques du cinéma occidental, les films contemporains qui sont tournés aux États-Unis ou en Europe, et puis également des films qui sont des pays communistes, dont évidemment Cuba qui produit également des films.
Ingrid de Kagan sur cette exposition d'affiches cubaines au Musée des Arts Décoratifs.
Alors, ce qui est fascinant, c'est de constater malgré tout que l'influence américaine perdure et donc que ces artistes vont être dans une forme de cannibalisme où j'ai l'impression qu'ils vont aller manger et s'approprier les formes de l'ennemi pour les remettre au service de leur cause. C'est là où le parcours de l'exposition est assez bien construit, puisque en étant vraiment sur un principe de salle monographique, on voit à quel point la digestion de toutes ces influences va permettre l'émergence de singularités. On est sur un langage qui est plutôt unifié, mais qui est unifié du fait de l'époque où évidemment les grands courants qui dominent sont le pop art, l'op art et le psychédélisme. Mais on voit vraiment s'affirmer des singularités chez chacun de ces artistes, qui sont donc des artistes au sens plein, puisqu'ils affirment leur style par-delà les sujets traités.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est l'organisation de tout ça. Il y a le collectif Nodo au début, il y a la presse qui joue un rôle important, le magazine Tricontinental, parce que dans chacun des exemplaires, il y a quand même une affiche qu'on peut évidemment garder, placarder chez soi. Il y a tout ce qui se passe avec le cinéma itinérant, Cinémobile, avec cette production du cinéma cubain. Enfin, on voit très bien que c'est quand même, on le disait évidemment au début, outil de propagande, mais dans un sens vraiment très généreux, très ample. Enfin, il y a des moyens, même si l'économie est ce qu'elle est à Cuba à ce moment-là, Florian Guetté.
Ah mais moi je suis sorti en voulant faire la révolution. Hein. J'avoue qu'il y a eu, il y a quelque chose de beaucoup moins austère en fait que dans la propagande du réalisme soviétique par exemple, où on se sent un peu exclu si on n'est pas directement concerné par la culture russe. Et alors que là,
bah là c'est sexy. Hein.
Ah ouais, je me sentais pas du tout. En dehors. Déjà il y a des luttes sociales qui sont encore actuelles, les luttes contre les discriminations raciales, la critique du néolibéralisme, c'était déjà là il y a 50 ans. Le côté aussi très international, c'est-à-dire qu'effectivement avec l'OSPAL. Qui rejoint quand même 82 pays du tiers-monde. Alors c'est sûr que là d'un coup on a le Zimbabwe à côté des Black Panthers, à côté de beaucoup de pays d'Afrique, d'Afrique du Sud, etc. On se rappelle aussi que bah, y a une tradition révolutionnaire en Afrique, très très forte, notamment en Algérie, où il y avait beaucoup de liens avec le Cuba. Donc c'est aussi réinscrire, alors qu'on a vraiment, mais presque par propagande américaine, l'idée de que Cuba c'est sous embargo, donc forcément c'est isolé et on n'y accède pas, etc. Alors qu'en fait c'est un pays extrêmement ouvert et qu'on s'en rend compte là d'une façon assez éclatante. Et puis je j'ai pas pu m'empêcher moi de faire des rapprochements comme ça entre des affiches notamment de Alphaville par exemple de Godard avec certaines affiches qui sont présentées là. J'ai beaucoup aimé René Ascuy Cárdenas qui au départ part de la publicité, lui, pour le coup, mais qui va donc se reconvertir dans le cinéma après la Révolution, qui utilise principalement du blanc et du noir, qui pourrait paraître du coup beaucoup plus sévère, mais qui en fait est beaucoup plus inventif, avec des gros plans, des contrastes très accentués, des détails qui va éliminer comme ça, et on voit qu'à travers en fait ce style s'organise aussi une pensée comme ça de la profession, et c'est par l'intermédiaire du graphisme et des arts graphiques que notamment ce René Ascuy Cárdenas va participer à professionnaliser, à créer, alors pas des syndicats mais en tout cas des formes de corporations pour pouvoir faire reconnaître leur métier, etc. Donc alors que nous on a un peu une sorte de tendance à minimiser ou à rendre périphérique les arts graphiques en faisant les arts décoratifs, etc. Alors qu'en fait là-bas c'est devenu le vecteur principal en fait de l'art, par-delà la distinction entre art populaire et beaux-arts ou arts savants.
Ingrid de Kegan.
Alors pour revenir sur un exemple plus précis, on a un corpus de 30 toiles d'influence moitié pop matinée d'art déco de Félix Medeiros Pazos et qui lui était peintre reporter et donc il a été envoyé au Nord Vietnam pour suivre les forces de la libération et il en a tiré comme ça une trentaine de sérigraphies très joyeuses qui illustrent la vie quotidienne dans un Éden hors du temps et totalement plein d'abondance, plein de joie, plein de couleurs, et qui illustre la vie quotidienne des paysans et des soldats vietnamiens. Donc ça, c'est un exercice de propagande assez impressionnant, puisqu'on a très envie d'aller vivre dans ce pays de cocagne.
Ouais.
Et qu'au final, ce sont vraiment des toiles qui se passent de tout commentaire, où il n'y a pas de texte, c'est vraiment un corpus comme ça qui tient par la force interne de son sujet. Et donc on voit vraiment effectivement en quoi les arts graphiques sont un outil essentiel pour forger un imaginaire visuel et des identités collectives.
Allez, un dernier mot de Sarah Ellermeyer sur cette exposition des affiches cubaines au Musée des arts décoratifs.
Bah, je dirais un peu comme Florian, c'est-à-dire qu'on en sort avec effectivement l'envie presque de faire la révolution. Dans la mesure, en fait, ce qui est surprenant, comme disait Florian, c'est qu'on a l'impression, enfin, on pourrait avoir l'impression que Cuba était coupé de tout. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir la diversité en fait des luttes luttent, qui soutiennent à travers leurs affiches, pour notamment, je pense, aux communautés, aux populations opprimées, hein, comme eh bien à l'époque les Vietnamiens, les Palestiniens toujours d'ailleurs. Donc aussi les positions effectivement anti-impérialistes, surtout anti-américaines, qui, bon, je dois dire, on a un peu envie de s'y aligner, hein, d'une certaine manière. Et puis dernière chose, c'est la, je trouve la, ce qui est remarquable, c'est que ces affiches politiques sont extrêmement efficaces, hein, ce qu'elles butent une affiche politique, hein, qui est de communiquer des concepts visuels, mais avec une économie de moyens, je trouve, et une inventivité particulièrement réjouissante. Notamment une affiche, peut-être je la décris
très rapidement,
qui s'appelle Journée de solidarité avec le peuple de Palestine de 1968, et qui représente avec quelques aplats de couleurs le portrait d'un homme de profil, dont le keffieh est porté à Arafat, et la barbe, eh bien, représente en fait la côte palestinienne, et l'œil est un canon de fusil, ce qui produit une sorte de synthèse conceptuelle, avec des symboles et des figures qui sont tout de suite identifiables, et qu'on pourrait identifier même presque sans lire le texte. Il y a presque un jeu comme ça que je trouve assez séduisant.
Voilà, allez voir Affiche cubaine, Révolution et cinéma au MAD, jusqu'au 2 février, un catalogue édité par ce musée. Avant de conclure cette émission, alors ne prenez pas cette... Je ne croyais pas que c'est une habitude en 2020, c'est la joie, la très grande joie d'entendre Aïssa Toundoy qui va nous délivrer la question du soir après que j'ai précisé qu'il s'agit de gagner des invitations pour Cunningham d'Ala Gofgan qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Aïssa Tou, quelle est la question ?
Quel compositeur américain a accompagné les spectacles de Merce Cunningham pendant plus de 50 ans ?
Quelle voix ! Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy. En votre présence, j'en bafouille. Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Ce soir, la prise de son est assurée par Jérémy Kaufmann. La réalisation, Alexandre Fougeron. Demain à 19h, dispute littérature avec Raphaël Léris, Grégoire Leménager et Florent Georgescu. Notre sommaire, Vie de Gérard Fumard, de Jean Echenoz, Un automne de Flaubert, d'Alexandre Postel, l'ex-success de Gary Steingart et un coup de cœur de Raphaël Léris pour Ordinary People de Diana Evans.